Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
L'affaire des piqueurs de fesses. Deuxième épisode. Un vrai faux coupable. Un documentaire de Julie Béressy et Antoine Coudert.
Un événement extraordinaire a troublé Paris pendant le mois de décembre 1819. Le bruit s'est répandu qu'un être mystérieux poursuivait les jeunes filles. Serpent, il piquait. Monstre ailé, il volait dans tous les quartiers à la fois. Chimère, il était invisible. Tout à coup, les piqûres ont cessé. Et tout en assurant qu'elles n'avaient jamais été réelles, l'on a songé à offrir un coupable à la colère publique. Il fallait des victimes saignantes pour accuser. On choisit des blessés si bien guéris qu'on n'aurait jamais soupçonné leur accident. Paris demandait un piqueur et l'on fournit un tailleur. Le dit Auguste Bizeul.
Les contradictions, disons, entre les différents témoignages sont assez frappantes.
Emmanuel Furex, historien.
Sur une trentaine de témoins qui sont convoqués, seules trois jeunes femmes victimes de piqûres reconnaissent en Bizeul l'auteur du forfait. Par ailleurs, les témoignages évoquent des habits de couleurs différentes, un teint du visage de couleurs différentes, parfois des couleurs d'yeux et de cheveux contradictoires, qui font que un fort soupçon pèse sur ce procès. C'est en quelque sorte le coupable idéal parce qu'il il est d'abord tailleur, donc expert en aiguilles. Il habite dans un quartier proche des attaques perpétrées. Et puis, c'est un repris de justice. Il a été condamné pour vol une première fois. Et donc, il se situe exactement à la charnière des classes laborieuses et des classes dangereuses. Cet espace qui permet de l'incriminer beaucoup plus facilement.
C'est vrai que l'aiguille, qui est l'objet professionnel du tailleur, devient une sorte de corps du délit, et donc une preuve à charge contre Bizeul.
Laurence Guignard, historienne.
C'est d'autant plus troublant que c'est un objet banal du travail du tailleur, mais qui devient là une arme dirigée contre les jeunes femmes, les jeunes filles. Et ça rejoint aussi le côté un peu monomanie, c'est-à-dire qu'il y a cet objet en fait qui fait le lien entre ces pratiques sociales ordinaires et puis le crime. C'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'un garçon tailleur du coup devient une menace par un outil peu dangereux a priori, mais là en l'occurrence qui peut le devenir face à... Et aussi dans cet espace public qui est plus ouvert qu'auparavant et où les jeunes femmes apparaissent comme sans défense en fait.
Ce motif de l'aiguille qui pique la peau, on le retrouve dans plusieurs contes de fées. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant.
Morgan Morcel, doctorant en philosophie.
Alors, c'est parce que l'aiguille a quelque chose de féminin lié à la broderie, à l'espace domestique dans lequel sont mises les femmes à cette époque. Et Bettelheim, dans sa psychanalyse des contes de fées, propose l'interprétation de cette piqûre, de cette goutte de sang qui coule, comme une manière pour la petite fille de se préparer à la menstruation. Et on pourrait même faire le rapprochement avec la preuve de la virginité au moment de la nuit de noces. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais la menstruation, c'est quelque chose dont on parle au XVIIIe siècle et qui va progressivement être tue avec les valeurs bourgeoises. La femme ne peut plus parler de ses règles. Elle est un corps blanc, lié à un impératif de pudeur, et donc il n'y a pas de trace de sang. Alors si on suit la trace que nous propose Bettelheim, on pourrait se demander s'il n'y a pas, dans cet acte dirigé contre les femmes, non seulement l'idéal de pénétration détourné et violent par le pic, et cet idéal de pénétration allant avec la dévirginisation de la femme dans l'espace public et le retour du sang comme preuve d'un rapport premier avec cette femme rencontrée au hasard dans la rue.
Les jeunes hommes, les jeunes femmes se côtoient en permanence, hein, dans les rues. Une blanchisseuse qui va rapporter son linge, le linge qu'elle a lavé, elle va le rapporter à ses clientes. Elle s'arrête en chemin, elle se repose un peu en chemin et elle s'assied sur dans un jardin. Et là, elle peut être abordée par un homme.
Dominique Godino, historienne.
Mais ça peut être aussi à l'intérieur des maisons. Parce que les maisons sont des lieux aussi extrêmement, les immeubles, des lieux extrêmement de vie aussi très animés. Hein. Il y a des cours, on badine, comme on disait au XVIIIe siècle. On badine, et donc le badinage, c'est à la fois des plaisanteries, entre guillemets, qui peut-être ne seraient pas très bien acceptées aujourd'hui, plus ou moins grivoises, hein, plus ou moins... Mais bon, ça fait partie de la vie, et puis il peut y avoir des... Ça peut aller jusqu'à des gestes plus explicites. Accepté ou non, hein, parce que parfois c'est accepté, mais pas toujours, c'est intégré que les femmes peuvent subir des attouchements. Voilà. Que, au pire, ça peut aller jusqu'au viol. C'est intégré dans les manières de vivre.
On peut situer la Restauration dans la continuité du Premier Empire comme un moment de réaction patriarcale, c'est-à-dire de retour à l'ordre social et culturel, qui est aussi un ordre des sexes, qui suppose la domination générale des hommes sur les femmes.
Gilles Malandin, historien.
Parce que la Révolution a été un moment d'ébranlement de cet ordre sexuel et a posé la question de la place des femmes, a posé l'hypothèse d'une entrée des femmes, des citoyennes sur la scène publique et la réponse, y compris chez les révolutionnaires républicains pour la plupart, a été assez nettement, assez fermement, non. La place des femmes n'est pas dans l'espace public, il y a un accord très général, je dirais de gauche à droite, dans ce sens. Alors, on est dans un moment vraiment de retour au patriarcat dont les codes napoléoniens ont donné, si vous voulez, les clés. Hein, c'est-à-dire quand vous voyez très bien que ce qui est prévu juridiquement, judiciairement, c'est vraiment la minorité, comme on dit, hein, de la femme, dont la position est toujours relative à un homme, fille d'un père, femme d'un époux, éventuellement sœur d'un frère, etc. Très difficilement et très rarement, bon, sauf quand elle est veuve éventuellement, mais chef, si vous voulez, de famille. Moi, je pense qu'en fait, si on veut complètement essayer de se faire une idée de l'imaginaire collectif, de la culture du temps, il faut évoquer le théâtre, hein, parce que les gens vont beaucoup au spectacle. Le théâtre a un succès énorme. Sur les boulevards, il y a des foules hein, qui remplissent les théâtres. Or, sur le théâtre, une des esthétiques qui triomphe depuis 1800, de la façon la plus forte, c'est le mélodrame. Et le mélodrame, ce sont des pièces qui, d'une part, font appel à cet imaginaire gothique, à ces intrigues tortueuses, puisque c'est en gros des pièces qui sont toujours construites sur le même schéma, avec une personne pure, innocente, persécutée, un persécuteur, généralement associé à un traître qui fait semblant d'être du côté de la persécutée, mais qui en fait ourdit des machinations au service du persécuteur, et généralement un héros qui vient sauver la personne persécutée. Et vous l'imaginez bien, au départ, la personne victime et persécutée ne peut être qu'un enfant ou une femme, une jeune femme, et une jeune femme vierge, pure. Et le héros, vous l'imaginez bien, sauveur, ne peut être qu'un jeune homme, bon. Ou un homme jeune. Et le traître, d'ailleurs, le méchant est aussi généralement un homme, hein, et ça peut être un aristocrate, d'ailleurs. Voilà, là, on a quelque chose, effectivement, qui met en scène de façon assez forte la femme comme victime.
Il y a un imaginaire qui est en train de se mettre en place à cette époque-là.
Vincent Robert, historien.
Qui n'est pas vraiment fixé encore. Qui relie justement l'image du grand seigneur et l'image de l'être assoiffé de sang, qui est l'imaginaire du vampire. Et tout le monde sait, dès le départ, c'est-à-dire dès que en fait, la nouvelle de Polidori, le vampire, a été traduite en français, c'est-à-dire en juin 1819, tout le monde sait que c'est un thème sensationnel qu'on va pouvoir exploiter massivement. Et j'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'affaire des piqueurs qui concrétise la figure du vampire plutôt que l'inverse.
Le sang, c'est vraiment un motif fort de l'imaginaire, ça l'est sans doute encore aujourd'hui, mais ça l'était sans doute plus encore à l'époque. Cette idée, effectivement, du sang qui fait basculer dans l'horreur, dans le crime, il y a un imaginaire, effectivement, du coup de couteau, de l'arme blanche, aussi de la pénétration.
Dans ces gestes des piqueurs, un des éléments les plus frappants, ce sont les parties du corps qui sont visées, hein, qui frappent d'emblée. Le plus souvent, les fesses qui sont visées. Mais de toute évidence, ces gestes ont une dimension sexuelle. Quand la dimension sexuelle est explicite, les piqueurs sont décrits comme des dépravés. L'idée est celle d'une corruption morale. Et du coup, on cadre ce geste avec l'idée du libertinage, avec la mémoire aussi du Marquis de Sade. Autrement dit, l'auteur imaginaire de ces piqûres correspond plutôt au noble corrompu, décadent, dépravé. Alors que les auteurs qui sont saisis par la police, en particulier le tailleur Bizeul, appartiennent à un tout autre univers social.
Cette affaire, c'est aussi lié à la figure de Sade. Les romans de Sade sont omnubilés par cette image de faire couler le sang de la victime, chose qu'on attribue d'ailleurs à Sade dans ses pratiques sexuelles lui-même.
Saint-Fond emploie d'abord des verges que Delcourt et moi lui fournissons. Il donne 100 coups aux victimes et 50 aux tribades. La seconde reprise se donne avec des martinets à pointe d'acier, 200 coups aux victimes, 10 aux tribades. Alors Saint-Fond fait jouer les pointes. Les malheureuses, piquées de toutes parts, poussent des cris qui eussent attendri tout autre que des scélérats tels que nous.
Histoire de Juliette ou les prospérités du vice. Marquis de Sade, 1797.
C'est très intéressant comme affaire parce qu'on a l'impression qu'elle est comme la matrice d'un ensemble de développements qui vont avoir lieu tout au cours du 19e siècle. Psychologie des foules avec les études de Tard, de Gustave Le Bon à la fin du siècle, début de la sociologie, mais aussi psychiatrisation des crimes. Et là, on pense au travail de Paul Gauthier ou de Krafft-Ebing, qui va d'ailleurs recenser un certain nombre de cas d'observation propre aux piqûres, l'intégrant dans ce qui est le sadisme. En 1820, quand a lieu le procès de Bizeul, il me semble qu'il y a un lien avec la condamnation du sadisme au début du siècle, et notamment à la mort de Sade. Je dis ça parce que Krafft-Ebing va mettre la piqûre dans un de ses 4 sous-catégories du sadisme. Royer-Collard, en 1808, va s'indigner contre la qualification de Sade d'aliéné. Il dit « Sade n'est pas un aliéné, il n'appartient pas aux maisons d'aliénation de le prendre, c'est un vicieux. » En 1820, héritier de cette conception peut-être déjà du sadisme, alors qu'on n'en parle pas encore une fois dans les tribunaux, hein, mais peut-être que héritier de cette conception-là, et c'est ce qui va être le cas de Bizeul, la piqûre n'est pas considérée comme un acte sadique, comme une perversion sexuelle, elle est considérée comme une dépravation. Et la dépravation, c'est une dépravation morale. C'est une dépravation morale parce qu'elle montre encore une fois, un rapport à l'ordre public qui est contraire à celui d'une bonne société et à une société surtout ordonnée que la Restauration tente de mener avec difficulté.
Un des éléments de la défense de Bizeul, son avocat dit que son origine sociale, ouvrier misérable, dit-il, ne coïncide pas avec le profil attendu de ce type de pervers sexuel.
Bon, ce que disent les gens qui défendent Bizeul, en gros, c'est que c'est pas possible que ce soit lui, parce qu'il est à demi illettré et que des idées pareilles ne peuvent venir que à des gens qui auraient lu de la littérature sadienne, en fait. Bon, c'est ce que disent les gens de l'époque. On est face à un inconnu dans une ville qui fait déjà, à l'époque, 750 000 habitants. Et c'est encore plus difficile d'imaginer le piqueur que d'imaginer Jacques l'Éventreur. On n'a absolument aucune indication plausible de quoi que ce soit.
Procès du piqueur. On ne saurait douter que la police ait trouvé le véritable piqueur puisque la justice l'a condamné.
Mais ce qui paraît étrange, c'est que l'extravagante passion qui animait ses ennemis des femmes se soit glissée dans l'âme d'un pauvre garçon tailleur. Il semble que la dépravation qui donne ses goûts féroces, dont on connaît plus d'un exemple, ne puisse être que la suite des excès de toute espèce et de l'abus des plaisirs que la richesse offre aux débauchés. On devait s'attendre à voir sur les bancs de la police correctionnelle un vieux Mondor et non pas un pauvre ouvrier qu'on pouvait croire plus occupé de piquer ses étoffes que les dames. Sans le jugement rendu aujourd'hui, bien des gens penseraient peut-être encore que la police ne nous a pas montré le véritable piqueur.
Disons que la justice du 19e siècle, elle est héritée de la période des Lumières et c'est une justice qui se veut rationnelle et qui envisage le crime en fait comme un calcul. Il y a une sorte de calcul bénéfice-risque du point de vue du criminel. Donc on recherche un intérêt, une rationalité, un mobile, voilà. Et surtout donc avec une difficulté à envisager ce qu'on appelle à l'époque les crimes sans motif. Que ça soit des gestes cruels, sans bénéfice apparent. Et ça, c'est une question, comme c'est le cas pour nos piqueurs, c'est une question que la justice a beaucoup de mal à appréhender et qui suscite, du coup, en revers, une grande fascination. Dans les années 1820, alors là, en 1819, on est peut-être vraiment au début, en fait, de cet intérêt pour les crimes sans motif, qui vont alimenter la réflexion, à la fois du côté des juristes et puis peut-être plus encore du côté des médecins, des aliénistes, en fait. On peut même dire que c'est un élément de constitution d'une identité professionnelle des psychiatres à cette époque-là, de prendre position sur la scène judiciaire.
On est à un âge de la médecine et de l'aliénisme, la future psychiatrie, où l'on ne parle pas encore de perversion sexuelle et où l'idée de pathologie mentale n'est même pas évoquée. C'est-à-dire, les médecins qui sont convoqués pour constater les blessures le sont uniquement pour constater ces blessures et absolument pas pour expertiser, évaluer l'éventuelle folie des auteurs de ce crime. C'est rétrospectivement que, dès la fin du 19e siècle, avec la naissance de la sexologie, et puis aujourd'hui, bien sûr, que nous lisons ces gestes avec une autre grille de lecture et qui assimile ces piqueurs à des sortes de sado-fétichistes, c'est-à-dire des hommes qui jouissent de la vue du sang épanché et qui fantasment une partie précise du corps, en l'occurrence donc les fesses.
En 1820, on ne peut pas parler de fétichisme parce que la notion n'existe pas du tout. Ça va être le fruit, en fait, d'un effort intellectuel très important qui traverse tout le siècle et qui questionne justement ces crimes sans motif, ces gestes bizarres que les magistrats remarquent, mais auxquels ils n'arrivent pas à donner sens et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ce sont des choses qui apparaissent dans les dossiers. On voit bien les magistrats remarquent certains travers, finalement, il condamne ou il laisse ces questions de côté parce que ça n'entre pas dans les catégories du code pénal et que la médecine n'a pas non plus de réponse ou des réponses difficiles à mobiliser parce que la monomanie homicide, c'est bien, mais lorsqu'on juge des assassins, c'est compliqué quand même d'acquitter ou de faire bénéficier d'un non-lieu des personnes qui ont commis des crimes très graves. Mais c'est au fur et à mesure du siècle, et on voit, il y a des ouvrages qui sont publiés, qui reprennent l'affaire des piqueurs, et apporter des interprétations successives, différentes, et qui, de plus en plus, vont s'intéresser à quelque chose qui ressemble à une personnalité, à une constitution psychologique personnelle. Et finalement, cette notion de fétichisme, elle s'inscrit dans la théorisation des perversions sexuelles dont Richard von Krafft-Ebing, un psychiatre allemand et médecin légiste, va fournir une théorie très importante et un recueil aussi très massif de la grande diversité des perversions sexuelles qu'il a pu rencontrer au cours de sa vie. Donc c'est à ce moment-là qu'il fournit une théorie. Il explique en fait que ces perversions, comme le fétichisme, comme le sadisme, sont un moyen pour l'auteur des faits d'accéder à la jouissance par des moyens détournés. Donc c'est seulement après 1886 qu'on pourra parler de fétichisme, sado-fétichisme.
Ce qui rend cette histoire un peu folle, c'est comment est-ce qu'elle va être investie du degré d'incertitude qui est très proche de celui qu'on atteint aujourd'hui devant un certain nombre d'histoires. Et la justice, comme lieu où se résout les faits, va avoir une importance assez forte. C'est pour ça qu'il était important que le procès de Bisseul ait lieu, en quelque sorte. Ce qui explique qu'on soit pas tout à fait clair au point de vue de sa culpabilité quand on lit les rapports aujourd'hui de ces procès tels qu'ils sont donnés dans la presse. Mais il fallait que le pouvoir politique, à travers l'institution judiciaire, donne une réponse à cet acte de piqueur, donne sa version de cet acte de piqueur. En quelque sorte, la décision judiciaire viendrait interrompre les fantasmes politiques multiples et conflictuels qui se font à travers la presse, le bouche à oreille, etc.
Tous les observateurs, enfin, en tout cas ceux qui se sont penchés, qui ont observé cette agitation, ont très clairement le sentiment que cette effervescence politique en général est nouvelle.
François Plou, historien.
Même si elle leur rappelle l'année 1789, c'est un parallèle qui est souvent fait. Mais en tout cas, par rapport au Premier Empire, c'est quelque chose de tout à fait inédit à leurs yeux, et on peut les croire, parce que c'est des gens qui avaient vécu ces épisodes et qui n'ont pas inventé cette agitation inédite. Il y a quelque chose qui s'est joué. Alors, tout à la fin de l'Empire, probablement, au moment où l'Empire s'effondre, déjà, on commence à observer une montée de cette agitation. Et puis, sous la première Restauration, c'est une sorte d'explosion, de décompression, là encore, pour reprendre une image qui est souvent utilisée, qui va se prolonger jusqu'en 1819, 1820, et se tasser progressivement par la suite. Mais à la fin de l'année 1819, on est encore dans ce climat, et peut-être encore davantage, parce qu'il y a des événements qui vont de nouveau provoquer un surcroît d'agitation politique.
Ce qui vient encore plus clore l'affaire, c'est un événement politique, celui-ci majeur, c'est-à-dire l'assassinat du duc de Berry, le 13 février 1820, c'est-à-dire le neveu du roi Louis XVIII, espoir des Bourbons, qui est un véritable traumatisme, une sorte de quasi-régicide en pleine Restauration.
Cette nuit-là, il y avait grande fête. Le bal ne pouvait être plus gai, plus animé. Mais voilà que quelqu'un entre et dit au milieu du bruit une parole à son voisin. Voilà que de proche en proche sur les visages se peine la surprise, l'effroi, à mesure que la terrible nouvelle perçait la foule. Il y eut un moment où des cris de joie et d'épouvante furent poussés en même temps dans la même chambre. Au milieu des rires et des violons, on entendit ces mots. Monsieur le duc de Berry est assassiné.
Alors c'est sûr que l'assassinat du duc de Berry est un événement d'une telle portée politique que de toute façon, on connaît bien ce phénomène. Il y a un phénomène de focalisation complète qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines, où on ne parle que de ça. Et donc effectivement, on peut imaginer, d'une part, je crois que l'affaire des piqueurs c'était déjà un peu affaibli auparavant, mais on peut imaginer que des affaires qui paraissent quand même du coup à côté assez anecdotiques pendant un certain temps sont mises effectivement de côté ou disparaissent. Et puis en plus, l'assassinat lui-même nourrit à son tour l'imaginaire collectif pendant des jours et des jours. On cherche le complot qui aurait justement armé l'assassin, ou plutôt qui aurait guidé son bras vers le prince. Parce qu'en plus, on a du mal à croire qu'un simple ouvrier, parce que finalement, c'est un peu comme Bisseul, Louvel, c'est un ouvrier sellier, c'est un ouvrier au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il travaille pour des employeurs, donc c'est vraiment un homme du peuple, à peine alphabétisé. Donc en fait, on a du mal à croire qu'un individu comme ça, qui à l'époque paraît complètement hors jeu politique, puisse, enfin, il s'est permis, si vous voulez, d'intervenir et de changer la face des choses et peut-être de mettre fin à la dynastie en place quand même. C'est un crime qui a une portée forte, puisqu'en fait, le duc de Berry qui est assassiné, c'était le dernier successeur possible du roi en place, des Bourbons. Bon, il se trouve qu'il y aura un fils posthume, finalement, une surprise, du duc de Berry qui finalement perpétuera la dynastie. Donc, en fin de compte, ça relativisera, mais on ne le sait pas au moment où il est tué. Donc, pendant un moment, on a l'impression que, il n'y aura pas de successeur au roi. La dynastie va s'éteindre.
Et ce qui est intéressant avec cet épisode-là, donc de l'assassinat du duc de Berry, c'est que, avant même que cet assassinat, qui est le fait d'un isolé, n'ait lieu, quantité de rumeurs annoncer ou donner l'impression d'annoncer cet épisode. Et par la suite, d'autres bruits vont circuler. Le duc de Berry aurait été assassiné par un amant éconduit ou par le frère d'une femme qui l'aurait dénigré. Voilà, donc il y a tout un travail là encore d'interprétation de l'événement qui s'opère dans les semaines qui suivent l'assassinat du duc de Berry par le biais de ces conversations de tous les jours. Et voilà, au moment de son assassinat, donc tout cela ressurgit.
Croisement, si vous voulez, de l'importance comme ça de ces scènes théâtrales, du mélodrame, et puis de cet imaginaire ou de cette culture de l'arme blanche, on pourrait rappeler que un des grands succès de l'hiver 1819-1820, donc une pièce qui a été jouée au théâtre de la Porte Saint-Martin autour d'une des grandes vedettes comiques de l'époque qui s'appelait Potier. Il joue un sorte de mélodrame féerie, comme on faisait beaucoup à l'époque, à grand spectacle, qui s'appelle Les Petites Danaïdes et qui est la parodie d'un opéra de Salieri. Et dans cette pièce, le personnage principal qu'il jouait, qui était un restaurateur qui s'appelait Sournois, distribue des petits couteaux à ses 50 filles le jour de leur mariage avec 50 frères, parce qu'il veut que ses filles tuent leur mari pendant la nuit de noces, en leur plantant chacune donc un couteau dans le cœur. Parce qu'on lui a dit qu'un de ses gendres, un des 50 maris, allait l'assassiner. Mais évidemment, on ne lui a pas dit lequel. Donc il est obligé de les faire assassiner tous pour éviter lui-même d'être assassiné. Alors cette scène a beaucoup marqué les esprits, cette distribution des couteaux. Et puis l'idée que la fille va poignarder son mari justement pendant la nuit de noces, cette espèce de retournement des rôles en quelque sorte, frappe aussi beaucoup les esprits, amuse beaucoup. Et on retrouve cette affaire parce que il y a des grands notables parisiens qui, pendant la saison des bals du carnaval, donc de janvier, février surtout 1820, reprennent. Ça se faisait, hein, donc on se déguisait et puis on rejouait des scènes, si vous voulez, qui avaient marqué dans les semaines ou les mois qui précédaient. Et donc vous avez comme ça des pairs de France, hein, qui, enfin notamment un, le duc de Fitz-James, qui le jour d'avant l'assassinat du duc de Berry distribue comme ça, s'amuse à distribuer des couteaux aux femmes de la soirée. Donc on est, attention, hein, on est dans le meilleur monde parisien, et en leur disant à chacune, pensez à bien viser le cœur, mais en adaptant à chaque fois ce qu'il disait, évidemment, à la personnalité du mari en question. Tout ça étant évidemment un jeu, bien entendu. Et y compris la duchesse de Berry, qui était présente à ce bal, avait eu son petit couteau. Et ensuite, après l'assassinat, évidemment, tout le monde dit, ah bah voilà, c'était bien prémonitoire de ce qui allait se passer.
Après l'assassinat du duc de Berry, d'autres piqueurs ont continué leur forfait tout au long du 19e siècle. Et souvenez-vous, jusqu'à l'été 2022, où la panique régna de Marseille à Paris, dans les lieux de fête.
Mesdames, mesdemoiselles, prenez garde et surveillez vos arrières. Les piqueurs sont toujours parmi nous.
C'était le deuxième épisode de l'affaire des piqueurs de fesses, avec les historiens Dominique Godinot, Laurence Guignard, Vincent Robert, François Plou, Emmanuel Furex, Gilles Malandin et Morgan Morcel, doctorant en philosophie. Prise de son, Jérémy Tuile. Mixage, Amandine Grévaux-Frichou. Documentation, Annelise Signoret et Antoine Vuilloz. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Julie Béressy et Antoine Couder. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. Ce documentaire a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée.